Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Sabrina Sebei, députée NUPES des Hauts-de-Seine, co-secrétaire régionale d'Europe Écologie Les Verts en Île-de-France. Bonsoir.
Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de Radio Orient.
Le Conseil constitutionnel a validé la réforme des retraites, une loi aussitôt promulguée par Emmanuel Macron. Est-ce que c'est la fin du combat contre cette réforme qui va obliger les Français à travailler 2 ans de plus ?
Bien, on a vu effectivement que le Conseil constitutionnel a validé ce texte, mais on voit aussi que ce n'est pas la fin du combat, puisque l'intersyndicale appelle d'ores et déjà à une autre date de mobilisation et une autre journée de manifestation massive. Et puis, on le voit bien, les Français continuent à rejeter massivement ce texte, puisque ce n'est la question qui se pose en réalité aujourd'hui, c'est est-ce que le fait que le Conseil constitutionnel ait validé ce texte, est-ce que cela le rend plus démocratique ? La réponse est bien évidemment non. En tout cas, nous, on estime que c'est le cas et ça restera le cas. Donc, on appelle bien sûr à poursuivre la mobilisation jusqu'au retrait de ce texte.
Les socialistes veulent déposer une proposition de loi pour abroger les 64 ans. Y a-t-il une chance de trouver une majorité à l'Assemblée ?
Eh bien, écoutez, ce qui est certain, c'est que le texte qui avait été proposé au Conseil constitutionnel était un texte qui avait été aussi qui avait été discuté dans le cadre d'un accord avec les LR, avec notamment des ajouts qui avaient été faits sur le texte, le CDI senior, la visite médicale ou encore l'index senior. Tous ces points ont été retirés par le Conseil constitutionnel. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que peut-être qu'il pourrait y avoir une majorité. Et je rappelle que ce texte n'a pas été voté. C'est le seul texte de la Ve République, la seule loi de la Ve République qui n'a pas été votée à l'Assemblée nationale, puisqu'il y a eu un 49-3, vu que le gouvernement avait fait ses comptes et qu'il savait que ce texte ne passerait pas. Donc peut-être que effectivement un texte abrogeant cette loi pourrait avoir une chance de trouver une majorité.
Alors, une partie de la population a renoncé à se soigner, à se chauffer ou à acheter certains produits en raison de l'inflation. Que demandez-vous au gouvernement pour augmenter le pouvoir d'achat, puisque c'est un sujet qui continue à être d'actualité ?
Eh bien, nous, ce qu'on répète depuis le début, c'est que je pense que sur la question de l'inflation, et elle avait démarré déjà bien avant la guerre en Ukraine, parce qu'on n'arrête pas de nous dire que tout est de la faute de la guerre en Ukraine, mais on sentait quand même venir tous ces sujets-là. Il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau de réponse urgente, immédiate, qui est le blocage des prix, ou encore, nous, on avait proposé une aide alimentaire, notamment de 50 € par mois, dans le cadre de la niche écologiste. Ça a été refusé par le gouvernement pour faire ses courses. Donc ça, c'est la réponse urgente et immédiate, mais il y a aussi, bien évidemment, l'augmentation du salaire. Donc nous, ce qu'on dit depuis le début, c'est augmentation du SMIC et augmentation du salaire qui suit finalement la courbe de l'inflation. C'est la seule manière pour avoir une action efficace sur le temps long. Or, ce gouvernement refuse et ils avaient voté un texte pour, d'ailleurs le texte est très intéressant puisqu'il s'appelait « Limiter la diminution du pouvoir d'achat ». Donc, c'est-à-dire qu'on part du principe que le pouvoir d'achat va diminuer. Et en fait, ils avaient voté une augmentation à hauteur de 3-4%. Vous voyez bien, on est très en dessous de ce que représente l'inflation aujourd'hui.
Sabrina Sebei, vous avez rédigé une proposition de résolution relative à la reconnaissance du massacre des Algériens du 17 octobre 1961 à Paris. Une proposition que vous avez finalement retirée. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler pourquoi ce massacre en pleine guerre d'Algérie devrait être reconnu et commémoré ?
Oui, alors ce 17 octobre 1961, vous savez, les Algériens étaient... À l'époque, on disait les Français d'origine musulmane, parce que c'était encore l'Algérie française, étaient frappés d'une interdiction de sortie qui ne concernait que les Algériens. Un couvre-feu qui ne concernait que les Algériens à Paris. Donc, suite à un appel du FLN notamment, ils ont décidé de faire une marche pacifique ce soir-là à Paris. Donc, il y a 3 cortèges différents qui sont partis de différents endroits en Ile-de-France, dont un d'ailleurs de Nanterre, des bidonvilles de Nanterre à l'époque, dont je suis la députée aujourd'hui. Et si vous voulez, d'ailleurs, moi, j'ai encore l'occasion de voir des témoignages hein, de personnes qui ont assisté à cette marche du 17 octobre. Et donc, ce cortège qui s'ébranle et qui avance fait face à la police ce soir-là, donc à la police qui est à l'époque dirigée par le préfet de police Maurice Papon. Et donc, ils se font massacrer. Il y en a qui se font tirer dessus, jeter dans la Seine, tabasser. Et donc, il y a encore des récits de ce qui s'est passé. Et si vous voulez, ce soir-là, on a complètement nié les faits. On a fait comme si cela n'avait jamais existé. D'ailleurs, on dit que l'autorité, en tout cas le président de la République à l'époque, n'était pas au courant, sauf qu'il y a eu depuis des papiers qui ont été sortis, des historiens qui ont travaillé sur le sujet. Et on sait que le président de la République de l'époque était informé dès le soir même des événements et qu'on a essayé de camoufler tous ces événements. Alors aujourd'hui, on est incapable de savoir quel est le nombre de victimes exactes. Hein. On parle d'environ entre 150 à 200 victimes mortes, puisque dès le lendemain, les corps commençaient à remonter de la Seine. Sauf que la presse, le lendemain, n'a titré que 2 blessés ou 2 morts. Donc vous voyez, on a vraiment minimisé les choses. Et puis surtout, toute la chaîne de commandement, que ce soit le préfet, le ministre de l'Intérieur de l'époque, ou même les policiers qui ont agi ce soir-là, personne n'a été tenu pour responsable. Personne n'a été condamné. Le préfet Papon a été condamné bien plus tard pour d'autres faits, mais il n'a jamais été condamné pour ce crime du 17 octobre 1961.
Et donc, il aurait été important que la France reconnaisse ce crime qui a été perpétré par sa propre police. L'Assemblée nationale a reconnu d'autres crimes perpétrés à l'étranger, y compris des génocides.
Absolument. Et puis, si vous voulez, on est dans un temps où Emmanuel Macron donc, était en Algérie au mois d'août. Il fait des annonces d'ailleurs qui sont, pour certaines d'entre elles, très problématiques. Quand il parle de la colonisation en disant c'est une histoire d'amour avec une part de tragique, non, entre 700 000 et 1 million de morts dus à la colonisation, ce n'est pas une part de tragique. La colonisation est un crime contre l'humanité. Ce qu'il s'est passé le 17 octobre est un crime d'État. Et je pense que quand on veut avancer et passer finalement de cette notion des mémoires à celle de l'histoire, on a besoin de bien nommer les choses, on a besoin d'ouvrir les archives parce que c'était aussi une demande de la résolution de permettre l'ouverture totale et l'accès libre à ces archives pour permettre aux historiens de faire ce travail. Je pense qu'on est venu, ça fait plus de 60 ans maintenant, à un temps, justement, il faut passer à cette histoire, il faut pouvoir tourner finalement cette page et donc pour tourner cette page, il faut reconnaître les choses telles qu'elles se sont passées. Et vraiment, j'insiste sur la notion de crime d'État parce que plusieurs historiens l'utilisent. Et je pense que c'est important de ne pas limiter finalement la portée de cette résolution. La majorité n'a pas souhaité voter le terme de crime d'État. Ils avaient proposé d'autres mots comme événement atroce. Je pense que événement atroce, c'est très en dessous de ce qui s'est passé ce soir-là. Si on compare, à Sainte-Soline, il y a quelques semaines de cela, les gendarmes ou les policiers avaient massacré 200 manifestants, on n'aurait pas parlé d'événements atroces.
Pourquoi n'a-t-il pas été possible, 62 ans après, de soumettre votre résolution au vote des députés ? Je rappelle que c'est votre groupe d'Europe Écologie Les Verts qui a retiré le texte.
Oui, alors en fait, il y a eu pas mal d'arbitrages effectivement sur ce texte. Et au départ, quand on avait commencé, en tout cas moi, quand j'avais commencé à travailler ce texte, y compris avec la société civile, ça me semblait assez évident que dans un moment d'apaisement, finalement, on avait envie d'apaiser les choses, ce texte ne poserait pas de problème. Et mis à part le RN que je mets de côté, je pensais au moins que d'autres forces politiques allaient essayer de travailler, ou en tout cas de le voter. Or, ça a été le mur, ce que je disais, c'est-à-dire que vraiment la majorité présidentielle nous a opposé un refus de vote sur cette résolution. Et c'est ce qui nous a conduit à retirer le texte. Puisqu'en réalité, à un moment, on s'est dit, mais en fait, si on dépose le texte et qu'on assiste juste à des propos ou aux termes qu'aurait employé le RN aussi sur ce sujet-là, sans avoir une chance d'aboutir, il valait mieux peut-être le retravailler, ce qui va être le cas, puisque aujourd'hui, on me propose une rencontre avec les conseillers du président de la République pour relancer le travail sur cette résolution, pour relancer le travail sur la reconnaissance du massacre du 17 octobre. Donc, en tout cas, moi, je ne céderai pas, je vais continuer à travailler le sujet.
Alors Sabrina CBI, vous avez diffusé sur les réseaux sociaux une lettre anonyme contenant de graves menaces contre vous en raison de vos prises de position sur la guerre d'Algérie. Que vous inspire ce type de message, visiblement inspiré par des nostalgiques de la colonisation ?
Eh bien, en réalité, vous savez, on avait commencé cette législature par les propos du doyen de l'Assemblée nationale sur justement cette nostalgie de l'Algérie française. Et déjà à l'époque, j'avais fait j'avais communiqué là-dessus parce que je trouvais ça totalement honteux le fait qu'on puisse tenir de tels propos au sein de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, le même député est encore vice-président du groupe d'amitié France-Algérie, ce qui est quand même assez étonnant quand on connaît sa vision, en tout cas la vision qu'il porte à l'Algérie. Et déjà à l'époque, j'avais reçu des lettres de menace. Donc là, c'est une continuité depuis le début du mandat, recevoir des insultes, des menaces de la part de l'extrême droite, si vous voulez. C'est des propos auxquels on s'habitue jamais, bien évidemment. Mais on sent quand même quelque chose de très particulier dès que ça touche à l'Algérie. Vraiment, moi je le constate à chaque fois que je suis intervenue, que ce soit sur le doyen qui a tenu des propos sur la nostalgie de l'Algérie française, que ce soit sur la résolution du 17 octobre, ça cristallise quelque chose et ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose de cette histoire et de cette relation franco-algérienne. Et puis, plus globalement, j'ai envie de dire, on est un véritable tournant. La parole raciste s'est complètement libérée dans notre pays. Il y a une banalisation, une normalisation de l'extrême droite. Il suffit parfois de regarder certaines chaînes de télé pour se rendre compte de ce qui se passe dans notre société. Et malheureusement, je ne suis pas la seule à être victime de racisme en France aujourd'hui. Et je pense qu'il y a de très très nombreuses personnes qui le vivent au quotidien.
Sabrina CBI, on a appris ces derniers jours qu'il existait des boucles de discussion sur Telegram qui regroupent des individus d'extrême droite et qui menacent des responsables d'associations, des élus, des journalistes, des avocats. Est-ce que c'est un sujet que vous avez pu aborder avec le ministre de l'Intérieur ? Est-ce que ces menaces doivent être prises très au sérieux ?
Alors ces menaces doivent être prises très au sérieux, vraiment, je le dis parce que aujourd'hui le gouvernement a tendance à minimiser ce qui se passe avec l'extrême droite. On avait déposé, d'ailleurs je salue mon collègue Aurélien Taché qui avait déposé une proposition de loi dans le cadre de la niche parlementaire sur justement l'idée de faire un état des lieux de la menace de l'extrême droite, du terrorisme d'extrême droite. Ce texte n'a pas pu être discuté jusqu'au bout parce que notamment la majorité a décidé de faire des amendements sur ce texte en y ajoutant l'extrême gauche, l'écoterrorisme, etc. Pour rappel, et là c'est Europol qui le dit, c'est-à-dire que c'est vraiment l'Europe qui indique que plus de 50% de la menace terroriste en France est due à l'extrême droite. C'est la première menace en France. Et pourtant, on en parle très peu. Il y a très peu de choses qui sont faites là-dessus, alors même qu'il y a d'autres menaces dont on parle, bien évidemment, je parle au terrorisme islamiste notamment, dont on parle énormément, mais vous voyez qu'il représente finalement pas du tout la même envergure de menace que ce que peut représenter aujourd'hui l'extrême droite. Et pourtant, le gouvernement préfère minimiser cette menace, préfère se concentrer sur la stigmatisation des militants écologistes, des militants de la gauche, en expliquant finalement que c'est nous qui sommes dangereux pour ce pays. Or, nous, et il n'y a pas que nous qui le disons, mais aussi l'Union européenne, on dit que ces menaces, il faut les prendre extrêmement au sérieux.
Que pensez-vous de la polémique lancée par Gérald Darmanin et Elisabeth Borne autour de la Ligue des droits de l'homme ?
Bien, je vous le disais, vraiment, ça dit quelque chose de très grave en fait sur le temps politique que nous vivons. Le seul moment où la LDH avait été, la Ligue des droits de l'homme avait été suspendue, c'était sous le régime de Vichy. Donc, vous voyez, en fait, on est dans un temps de notre histoire qui nous amène finalement aux heures les plus sombres de l'histoire de la France. Et je pense que quand on se met à remettre en cause le travail de la Ligue des droits de l'homme, qui est là justement pour dénoncer les dérives dans un état de droit, eh bien il y a de quoi s'inquiéter sur le fait que cet état reste un état de droit. Et c'est bien tout le sujet aujourd'hui dans lequel on est.
En 2022, de nombreux Français avaient voté pour Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen, mais sans épouser les idées du président de la République. Lors de la prochaine présidentielle, avez-vous le sentiment que ce barrage républicain risque de voler en éclats après la séquence qu'on vient de vivre sur les retraites ?
Alors, en réalité, le barrage a déjà cédé, puisque au moment des législatives, et vous faites bien de rappeler que la plupart des Français n'ont pas voté Emmanuel Macron en adhésion à son projet, mais bien pour faire opposition à Marine Le Pen, puisque le président de la République a tendance à l'oublier encore aujourd'hui. Mais au moment des législatives, quand il y a eu les seconds tours, notamment entre la NUPES et le Rassemblement National, la majorité présidentielle n'a pas appelé à faire barrage à l'extrême droite. Ils n'ont pas appelé à faire barrage à l'extrême droite. C'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui qu'on se retrouve avec 88 députés du Rassemblement National. Pire que cela, depuis le début de la législature, c'est bien la majorité qui a permis au RN d'avoir deux vice-présidences de l'Assemblée nationale. Ils ont des présidences de groupes d'amitié. Donc ils sont en train de normaliser et de banaliser l'extrême droite et ils sont en train de préparer l'accession au pouvoir de l'extrême droite. Je pense qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron fait la courte échelle à l'extrême droite et que le risque, bien sûr, c'est qu'en 2027, toutes les digues aient sauté. Quand on a un ministre de l'Intérieur qui nous explique que Marine Le Pen est trop molle sur les questions d'immigration, de sécurité, qu'elle est plus intelligente que Jean-Luc Mélenchon, enfin, vous voyez, on est comme dans des discours qui tendent vraiment à la normaliser, à faire comme si les idées nauséabondes qui ont constitué ce parti et qui continuent à l'alimenter n'existent plus. Donc oui, je pense qu'il y a un risque qu'en 2027, on ait l'extrême droite qui arrive au pouvoir, et tout cela par le biais du président de la République et de sa majorité qui aujourd'hui déroule le tapis rouge à l'extrême droite.
Vous n'avez pas le sentiment que le RN a changé au-delà d'être normalisé, peut-être qu'il a adouci ses propositions ?
Non, je ne pense pas parce que quand on est en hémicycle, il y a beaucoup de choses qui se disent, d'ailleurs pas forcément dans les micros, mais aussi en séance, notamment le fameux retour dans l'Afrique dont on a accablé mon collègue Carlos Bilongo. Donc les idées du Rassemblement National ne changent pas. Tous les amendements qu'ils déposent d'ailleurs, la plupart du temps, sont contre les étrangers, pour la préférence nationale. Donc ça reste le cœur de l'idéologie du Rassemblement National. En fait, si vous voulez, le Rassemblement National aujourd'hui, c'est le libéralisme d'Emmanuel Macron avec le racisme en plus. Mais fondamentalement, au niveau économique, c'est la même chose. Effectivement, on y ajoute la question du racisme. Et je pense que ce qui a, en quelque sorte, fait croire ou laisse penser que le Rassemblement National aurait changé, c'est juste qu'on a assisté à une campagne présidentielle où il y avait un candidat qui avait été pire que Marine Le Pen dans ses propos et dans le projet qu'il portait, qui fait que ça a remis un peu Marine Le Pen un peu plus à droite, on va dire. Mais je vous assure que dans les idées, rien n'a changé.
Dernière question, Sabrina Sebeï. J'en reviens à l'Algérie avec la visite en France du président Tebboune, prévue dans une quinzaine de jours. Qu'attendez-vous d'Emmanuel Macron à cette occasion, notamment sur les questions mémorielles ?
Eh bien, j'aurais souhaité qu'on avance sur la résolution du 17 octobre avant l'arrivée du président algérien. Ce n'est pas le cas, donc dont acte. Il y a, depuis le août dernier, où le président de la République avait annoncé l'ouverture des archives à des historiens. Donc il y a eu des deux côtés des deux rives de la Méditerranée des désignations d'un groupe d'historiens qui va travailler sur cette question mémorielle. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels il faudra avancer. On n'a pas abordé, mais il y a aussi l'autre 8 mai 45, qui est une autre date symbolique sur laquelle je pense que les historiens doivent pouvoir se pencher et sur lesquels on doit avancer également en termes de reconnaissance. Mais vous savez, il y a bien d'autres sujets. Il y a la question aussi du racisme, en tout cas des discriminations que subissent notamment les franco-algériens en France. Donc voilà, il y a à mon avis un panel de sujets qu'on pourra évoquer lors de cette visite et j'espère que le président de la République sera favorable, sera à l'écoute et sera en capacité aussi d'avancer réellement sur toutes ces questions.
Merci Sabrina Sebeï. Je rappelle que vous êtes députée NUPES des Hauts-de-Seine et co-secrétaire régionale d'Europe Écologie Les Verts en Ile-de-France. Bonsoir.
Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.